Bonjour, bienvenue sur notre chronique Le Bit et le Couteau du Theta Lab. Alors nouvelle formule, maintenant ça dure une heure et c'est tous les premiers mercredis du mois. Et donc bon, j'espère qu'on va assurer pour du passage de 40 minutes à une heure. Donc aujourd'hui on a moi, Coralie et Alex.
Bonjour.
Donc on rappelle déjà Alex
le pad. Donc si vous voulez participer à la mission, nous avons un bloc-notes sur internet pour poser vos questions, suivre les liens dont on va parler. Donc le bloc-notes c'est canalsud.tetalab.org. Donc vous pouvez aller sur ce bloc-notes et retrouver les articles qui sont évoqués pendant l'émission.
Donc comme d'habitude, on va faire une petite partie actu, une partie dossier, et puis on va essayer de chaque fois de revenir sur la biographie d'un hacker ou quelqu'un qui qu'on aime bien. Déjà, oui, sur le générique, ouais. Coralie, c'est quoi déjà ?
Je vais présenter brièvement le générique. Donc c'est Lobat, My Little Droid Need a Help. Et donc ça introduit un petit peu un des dossiers du jour qui est la musique 8 bits. Donc ici, en fait, Lobat, il utilise une Game Boy hackée, donc un programme qui s'appelle Little Sound DJ, qui permet de jouer de la musique en live avec une Game Boy. Voilà.
Ouais, on se posait la question, comment on fait pour mettre sur une cartouche le programme ? Est-ce qu'il faut acheter une cartouche sur Internet ou est-ce qu'on peut hacker une vieille cartouche pour ouais. mettre le programme, quoi ?
Il y a les deux solutions. Voilà.
Ouais. Ok, donc sur l'actu, donc déjà on commence notre cher Kim.com.
Donc voilà, maintenant qu'on est sur une formule un mois, on peut suivre un peu les activités qui sont passées tout le mois d'octobre. Ouais. Donc Kim.com qui fait partie de Mega Upload, un gros site de téléchargement qui a fermé au début de l'année. Est en train de faire la communication pour lancer la prochaine version de son site. Et voilà, il y a diverses actualités par rapport à ça. Donc, de souvenir, Kim.com s'est fait arrêter par la police nouvelle-zélandaise, grâce à la pression des Américains. On sait, le Premier ministre nouveau-zélandais s'est excusé de cette intervention.
Ah, oui.
Il y a eu un article assez intéressant sur Kim.com qui avait des soupçons quand son ping sur sa Xbox est passé de 30 millisecondes à 180 millisecondes, en se disant que peut-être qu'il y avait eu un détournement de sa ligne et ouais. que c'était passé du coup par un autre ordinateur quand il se connectait sur la Xbox.
Ouais, parce que en fait le mec est champion du monde de Modern Warfare 3.
Ouais.
Ouais, c'est le premier joueur mondial, donc le gars un gros geek.
On voit une vidéo, il passe 48 heures devant avec beaucoup de Coca-Cola.
Ouais, et c'est quoi le truc de l'offre Omega, c'est quoi qu'il voulait faire déjà?
Alors, la nouvelle offre Omega, tu veux dire?
Ouais, c'est un truc, ça va tout exploser quand même.
Ouais, alors c'est beaucoup de marketing et d'annonces de comment tuent les gens qui ont le souvenir de Mega Upload, comment c'était trop cool. Ils ont encore envie de payer pour que ça soit encore mieux.
Ouais, moi, ce que j'avais compris, quand même, l'idée géniale qu'il a eue, c'est que, enfin, déjà, les artistes, au lieu d'être. Les artistes pourraient. Ce serait quand même une plateforme pour les artistes. Et les artistes, au lieu d'être rémunérés, je sais pas, je suis Universal, ça doit être 2 ou 3%. Les artistes, on fait un peanuts. Là, ils seraient à 90%. Et si on paie le service, en fait, on n'a pas de pub. Mais si on ne veut pas payer le service, en fait, il faut installer un logiciel sur son poste qui va nous remplacer toutes les pubs d'internet par les pubs provenant de la régie de Mega Upload. Donc en fait ouais, il court-circuite toutes les pubs des autres,
ça passe tout par lui quoi.
Ouais voilà, alors donc, il propose ouais, je sais pas comment vont faire tous les gars qui vivent de la pub tout ça si ça se met en place, mais
disons
bon.
Que si ça marche, il sera le seul à offrir une offre légale sécurisée quoi, ouais. Pour les artistes.
Ouais, puis bon, enfin, ils peuvent s'y retrouver. Enfin, je sais pas, on verra. Mais bon, enfin, pauvre de lui, il y a le Gabon qui a déjà décidé de suspendre le nom de domaine Mega.
ME.GA. Donc, le point GA qui appartient au Gabon, il avait commencé à se renseigner pour avoir ce nom de domaine, ME.GA, ouais. Mega.
Et il a dit, le président du Gabon, non, il n'y a pas moyen.
Je disais aussi que c'est Vivendi qui gère les noms de domaine au Gabon.
Bah ouais.
Donc voilà, ça intéressait pas tellement Vivendi non plus, je pense. Oui.
Mais surtout, c'est en fait le site est même pas sorti quand déjà on le suspend quoi.
Il y a une histoire de piratage de son site aussi et des suspicions sur en quoi c'est lui qui pirate son propre site pour commencer à faire de la pub.
D'accord. Ouais. Il se fait quand même vachement, il se fait vachement mousser déjà et il se fait de la pub. Là déjà, il a dit que. S'il gagnait le procès qu'il a avec les USA, parce que comment ils lui ont cassé son business, hein, avec l'argent qu'il récolte, il ferait une ligne dédiée entre la Nouvelle-Zélande et les USA. Donc il tracerait un gros câble au niveau de, c'est quoi, l'océan Indien ?
Pacifique.
Eh, géographie. Il mettrait un gros câble, et en fait, parce qu'il y avait déjà eu un projet pour le faire, mais ça coûtait tellement cher que la société a abandonné le projet. Et donc, avec ce câble, en fait, il offrirait Internet à tous les particuliers néo-zélandais. Il n'y aurait que juste les sociétés et le gouvernement qui devraient payer son abonnement Internet. Donc, grosse pub pour lui. Et puis, lui, ça lui permettrait, en fait, d'avoir de gérer et son service et les lignes qui hébergent son service et donc de moins se faire descendre son service, quoi. D'accord. Mais bon, après, ça doit être à coût de milliards, le truc.
Ah bah là, ouais,
400 millions d'euros, je crois.
400 millions d'euros.
Ça faisait beaucoup. 400 000 euros.
Mais non, mais pour poser un câble dans le Pacifique... Ouais.
Le câble est déjà posé, c'est juste qu'il n'est pas utilisé. Et il veut
Il n'est pas utilisé,
ouais. Donc il veut réouvrir une utilisation de ce câble.
D'ailleurs, comment ils font pour les poser, ces câbles ?
Avec des bateaux.
Ouais, mais quand il y a des failles tectoniques, là où il y a de la lave qui sort, le câble, il passe dessus ou pas ?
C'est des câbles blindés.
Ah ouais, mais
je sais pas.
Je sais plus comment ils font, mais je crois qu'ils creusent une tranchée. Enfin, il y a un système. On pourrait faire un dossier sur les câbliers.
Avec les failles qui bougent, là, le câble, il doit être étiré et tout.
Possible. Ouais. Mais de toute façon, le câble, c'est un peu has-been, non ? Par rapport au satellite.
Il y a quand même beaucoup de choses qui passent par les câbles.
Ah oui.
Oui, carrément. Voilà, on a fini. C'était quoi après ?
Alors, il y avait un truc sur Apple, mais sur, pas... ouais, ça fait un moment que j'ai noté sur le lien. Donc, Apple qui a posé un brevet sur la désactivation des fonctionnalités du téléphone à distance. Donc, on ne sait pas trop pourquoi encore ils ont posé ce brevet. En gros, ça pourrait leur permettre d'ajouter une fonctionnalité sur leur téléphone Apple. Qui permettrait à quelqu'un qui connaît la fréquence, donc en général les services de police ou les services d'urgence, de désactiver certaines fonctions du téléphone. Donc, par exemple, il y a un gros incident quelque part et pour éviter que tout le monde appelle en même temps et sature les services de secours, ils désactivent tous les appels.
Ouais. Ça, c'est l'excuse, mais...
les possibles...
Ouais, t'es en train de courir, on te tire dans les jambes, quoi.
Les possibles applications, c'est... On peut pas envoyer des photos Twitter quand il y a des révolutions dans les pays arabes ou des choses comme ça, quoi.
Ah ouais, c'est
marrant. Je pense que quand il se passe des révolutions, les gouvernements, ils ont déjà accès au réseau télécom directement. Ils ont peut-être pas besoin d'avoir accès au téléphone du particulier.
Mais là, d'après ce qu'il y avait dans le truc, c'était de désactiver les fonctions même du téléphone, quoi.
Ouais,
donc
ça,
pas seulement les communications.
Ouais, pas seulement les communications.
Tu descends pas toutes tes antennes téléphoniques, tu juste emmerdes les gens en leur recoupant juste le téléphone. Toi, tu peux continuer à l'utiliser, quoi.
Ouais. Certains téléphones, du coup.
Ouais, c'est comme les Américains qui coupent le GPS sur certaines zones, quoi.
Ah ouais?
Ouais, bah, je crois en Afghanistan, il y a le GPS,
ah oui,
il est coupé, quoi.
Le GPS est dégradé, ouais. Il y a une formule militaire et une formule grand public. Ouais, et en Europe, on a la formule grand public améliorée. Et dans certains pays de Moyen-Orient, ils ont la formule grand public dégradée. Donc ils ont que 10 mètres de précision, un truc comme ça. Ici, on a quelques mètres de précision. Et les militaires, ils ont encore plus de précision. Ouais.
Okay.
Et ils pourraient dégrader tout le GPS d'un coup s'ils voulaient, quoi. Ou le désactiver
sur des zones immenses. Ouais.
Ouais.
D'accord.
Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a. En Europe, ils ont monté un.
Voilà, il y a
truc,
Galileo qui est en train d'être déployé.
Ça fait un moment qu'ils essaient de faire ça.
Ça devrait être. Bon, je crois qu'il y a 2 ou 3 satellites déjà qui sont en place. Ouais. Et, voilà.
C'est quoi, Galileo?
C'est un GPS européen.
D'accord.
Pour éviter, bah, justement, de se faire. De tout passer par les.
Parce que pour l'instant, tout passe par les États-Unis.
Par les États-Unis. Il y a les Russes aussi qui ont GLONASS, un GPS russe.
Okay.
Donc pareil, ça, c'est utilisable, il faut juste avoir la bonne électronique qui capte les bons signaux. Et après, bon, voilà, ça appartient en russe, hein, comme le GPS appartient aux Américains. Et bon, quand ils décident de couper, il n'y a que eux qui ont accès. Hein.
Ouais, ils vont pas se gêner, c'est à eux. Hein. Ensuite, oui, la Biennale du design d'Istanbul,
ouais.
Coralie.
Alors, au mois d'octobre, donc, il y a la Biennale du design à Istanbul qui a commencé. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une exposition qui s'appelle Adocratie, qui présente deux projets que j'ai déjà présentés pendant des émissions différentes de Le Bit et le Couteau. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du Toaster Project,
oui.
le grille-pain fait entièrement à la main. Et également, donc, le projet Open Structure, dont le but était de permettre de reproduire des objets, plutôt des équipements type électroménager, à différents niveaux de do-it-yourself.
D'accord.
Voilà, donc j'avais présenté une bouilloire. Et donc là, il y a un studio qui a utilisé donc cette structure de bouilloire, qui a repris les composants et qui a rajouté un filtre céramique imprimé grâce à une imprimante 3D.
D'accord.
Voilà, donc c'est un peu une illustration de l'importance d'ouvrir en fait les objets, de permettre de récupérer. Voilà, là il y a une base, en fait ils l'ont améliorée. Là maintenant on peut filtrer l'eau et ça peut être une bouilloire qui peut servir dans les pays en voie de développement où l'eau elle est pas pure.
D'accord, mais il faut quand même une imprimante 3D à la base.
C'est ah oui. C'est après une imprimante 3D, si on l'emmène sur une place, on peut l'utiliser pour produire en fait.
Ouais. D'ailleurs, c'est à la Novella, il y a un gars qui avait une imprimante portable. Juste, tu parles de portabilité d'imprimante.
Oui, il y avait PopFab.
Ouais, peut-être, je sais plus son nom. Ouais, son imprimante était assez géniale, quoi.
Qui se plie, qui est transportable, ouais. Et donc, là-dedans, ce que voulait dire cette exposition, c'est qu'aujourd'hui, le design, c'est plus une production d'objets fermés, industriels. C'est la production de processus de fabrication et de plateformes collaboratives, en fait.
D'accord.
Okay. Donc, on ne crée plus des objets finis, on crée des processus et des plateformes pour permettre de créer des objets.
On crée plus des outils, en fait.
Des outils, ouais. Ou des objets ouverts qui peuvent être améliorés, modifiés.
Ok, ok.
Voilà.
Tu as fini sur...
C'est tout.
Ouais. Alors, j'avais quoi? Oui, ouais. La Kinect. Alors, la Kinect, c'est trop cool. On est super contents de
voir ça. Qu'est-ce que c'est, la Kinect?
Mais qu'est-ce que la Kinect? C'est un capteur de mouvement. Oui, du corps qui est surtout utilisé sur Xbox pour
faire des jeux. Apprenez à danser avec Michael Jackson.
Voilà, ou des trucs où on tape dans le ballon, tout ça. Et c'est surtout, ça a été dès le départ repris par tous les hackers du monde entier et tous les bidouilleurs pour en faire diverses installations artistiques. Nous, au Theta Lab, on a plusieurs membres qui s'en servent régulièrement.
Voilà, c'est la première caméra 3D à bas budget et de très bonne qualité.
Ouais, voilà, donc c'est plein d'utilisations, mais Microsoft qui, bon, au début, ils voulaient pas qu'on s'en serve, donc ils avaient bien, bien verrouillé leurs sources, mais ça a tenu, je crois, une journée, deux jours, trois jours.
Ouais, voilà.
Et quelqu'un a sorti des drivers libres, et vu que ça fait, comment dire, de la hype, Microsoft s'en est emparé et a lui aussi lancé ses propres drivers mis à disposition, vu que ça lui faisait une pub énorme. Mais bon, ils se sont aperçus que en fait Microsoft avait mis en place, avait demandé un brevet en fait pour un système de DRM, si en gros c'est ce qui vous empêche de regarder un DVD qui, mettons, a été édité pour les États-Unis mais n'a pas été édité pour l'Europe. Donc c'est des formules de blocage pour en fait que la Kinect arrive à compter le nombre de personnes qu'il y a dans son salon. Quand on va acheter une vidéo, mettons, c'est pour dans le cadre de la famille, on va dire, il y a le papa, la maman, le garçon et la fille, ça fait 4 personnes. Si on détecte une 5e personne, hop,
ou un gros chien, sinon.
Ou un gros chien, ou je sais pas, une statue, enfin, la vidéo va se couper parce que
parce qu'il y a trop de monde.
Ouais, il y a trop de monde. Ou je sais pas, par exemple, on peut acheter très bien un DVD ou télécharger un DVD pour le diffuser lors d'une conférence, tout ça. Et Microsoft a eu la bonne idée et voir et dire « Ah non, vous n'avez pas pris l'option machin.
D'accord.
Voilà, on va l'arrêter. » Donc
la location par personne présente.
C'est totalement n'importe quoi.
Il faudra se cacher dans le canapé pour regarder la vidéo.
Alors, ils ont dit, bien sûr, « Mais non, c'est juste pour quand on est au cinéma, pour dire il y a tel nombre de personnes au cinéma, nanana. » Mais bon, ça va finir que... On va télécharger sa vidéo, il y a sa copine qui vient s'asseoir sur le canapé. Ah ben non, il faut rajouter une personne, comme sur les vieux jeux d'arcade là, c'est quand on mettait player, il y avait une touche pour avoir deux players.
Ça peut être intéressant quand tu regardes une vidéo de poney et qu'il y a quelqu'un derrière toi qui arrive.
C'est ce que j'ai vu, oui. Donc on regarde une vidéo de poney, la copine arrive, ah non, c'est terminé, hop, et là on est sauvé. Mais non, mais je vois déjà les gens en train d'imprimer des photos de leur salon et coller devant la Kinect. C'est du grand n'importe quoi. Bon, après, ça m'étonnerait que ça soit un jour mis en place ou ça vraiment on passe dans un autre. Enfin, c'est dingue.
C'est quoi, c'est un brevet qu'ils ont fait
Ouais, c'est passé l'année dernière en fait.
Okay.
Et là, ça a été publié.
C'est marrant la différence de projets sur Kinect entre les projets open source qui sont un peu délire ludique et tout ça et les projets de Microsoft pour l'utilisation.
C'est n'importe quoi.
Après, il faut être au courant et débrancher la Kinect. Ah, mais du coup, pour lire avec la Xbox, c'est...
Non, mais après, s'il faut, ils vont... vu que ça fait un carton, la Kinect, bientôt, elle sera intégrée dans les lecteurs DVD. Donc ce sera plus un élément séparé. Donc dès qu'on achètera un lecteur DVD qui coûtera 3 francs 6 sous en Chine, on l'aura par défaut, ou ça sera par défaut sur la télé. Donc voilà, après je sais pas, ils vont sortir un truc, ça détectera l'âge, le poids, levez-vous, arrêtez de regarder la télé, allez faire du sport.
Vous ne pouvez plus regarder de filles, vous êtes trop gros.
Enfin bref, voilà, c'est n'importe quoi. Ensuite, ouais, un truc un peu plus sympa, c'est sur des enfants éthiopiens qui ont hacké des OLPC. Alors OLPC, c'est en fait ça fait un peu, je sais pas, 5-10 ans. C'est une fondation, ça veut dire One Laptop Per Children. Ça veut dire un portable par enfant, et c'est une fondation qui vise à mettre à disposition des pays pauvres, des enfants, des ordinateurs pour qu'ils puissent avoir accès d'une à l'informatique et à plein d'outils éducatifs, à la lecture et ainsi de suite. Et donc ils ont fait tout un portable, ils ont designé un portable qui soit assez résistant, qui soit tactile, avec derrière il y a une distribution d'Ubuntu, d'Android, qui est spécifique à l'éducation pour ces enfants, et aussi avec tout un système pour recharger les portables, vu que si on les envoie en Afrique, il n'y a pas de courant, tout ça, forcément, avec une manivelle ou du... comment ça s'appelle par solaire. Et donc là, en fait, ils avaient mis des tablettes tactiles, des Motorola Xoom. Ils avaient envoyé, je ne sais plus où, en Éthiopie, voilà. Et les gars n'ont pas eu le temps de former les enfants sur l'utilisation. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Donc, ils ont laissé les cartons avec les tablettes où il y avait installé Android. Et ils ont dû repartir. Et en fait, quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte que les gamins, ils ont ouvert les cartons, ils ont pris les tablettes. C'était en anglais. Ils ont réussi à faire marcher la tablette. Au bout d'une semaine, ils savaient se servir de presque toutes les applications. Et le truc, c'est que par défaut, sur la distribution spécifique qu'il y avait sur cette tablette, ils avaient enlevé les, comment ça s'appelle, la webcam, ils l'avaient désactivée. Ben, les gamins ont réussi quand même à hacker l'Android pour activer la webcam. Donc en gros, vous laissez à des gamins des tablettes ou des trucs électroniques, ils arriveront toujours à se débrouiller, quoi. Donc nous, ça me fait penser quand on était gamin et qu'on apprenait à nos grands-parents à se servir du magnétoscope, quoi.
Du Minitel.
Ou du Minitel ou la commande Showview. Mmh. Et donc voilà. Et donc oui, ce truc au LPC, en fait, l'objectif, c'est pas d'avoir un contenu avec des leçons, mais c'est justement que d'arriver à donner aux enfants l'envie de s'intéresser au fonctionnement de l'ordinateur et d'apprendre par eux-mêmes.
Mais pareil gagné, quoi.
Ouais, voilà. Mais le gars qui raconte ça était là, je pensais qu'ils allaient se servir, qu'ils allaient juste jouer avec les cartons, quoi. Bon, il les prend un peu pour des débiles quand même, mais bon, enfin bref. Non, ouais, c'est je trouvais ça bien. Voilà, donc après, est-ce qu'on avait d'autres actus, Coralie?
Non.
Non. Ben, on va se passer un petit son. Alors, je sais pas.
La caravane passe.
La caravane passe.
Allez. C'est parti.
Ça a coupé. New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day.
Alors oui, c'était la Caravan Pass et le titre c'était Gypsy for One Day. Donc là, on va passer au dossier. Et là, c'est Coralie, je te laisse faire sur la musique low-field, circuit bending, beat crushing, musique 1 et 8 bits et circuit bending, je l'ai déjà dit. Voilà.
Voilà. Ouais, donc dans un autre registre un peu. Donc on a écouté en générique de la musique 8 bits. Et donc je fais un dossier là-dessus. Alors la musique 8 bits, en fait, c'est une musique qui est inspirée des sons des consoles. Et donc là, on parlait de Little Sound DJ qui permet de jouer de la musique avec une Game Boy à quai. Donc ça peut être soit à partir de samples qui sont remixés, soit si c'est en live, on parle de musique chiptune. Et dans ce cas-là, les musiciens jouent directement soit avec des NES, des Atari ou des Game Boy. Ils jouent c'est en classe, live de la musique.
Et là, la Game Boy, c'est 8 bits, ça? La NES aussi, c'est 8 bits?
Il me semble, ouais.
Et après, la Super NES, et on n'est pas 8 bits.
Atari, c'est 8 bits aussi.
16 bits, 16 bits, c'est
la
qui?
La Super NES, c'était 32.
16 bits, c'est la Mega Drive, non?
16 bits, la Mega Drive,
non, c'est ouais. L'équivalent Super NES.
Et, ah bon?
Ah ouais.
32.
Mega Drive, c'est le même moment que la NES, non?
Ah oui, Mega Drive.
Non, il y a la Master System.
Master System, c'est 8.
Moi, ouais, j'étais plus Nintendo, c'était mieux quand même Nintendo.
Ça dépend, hein. Le design était un peu moucrave hein, quand même.
Non, non, c'est les jeux, c'était mieux. Ah, j'ai perdu mon oreille à gauche.
Nous avons aussi, des ouais, petits problèmes de connexion. Ça va mieux si je fais ça?
Non.
Non, pas top. Bon.
C'est Alex qui a marché sur le cas. Bon, enfin bref, oui, on reprend.
Et donc ça, donc la musique 8 bits, c'est un peu général, ça comprend plusieurs sous-genres, on va dire. Musique chiptune, donc c'est tout ce qui se fait en live. Musique 8 bits, c'est utilisation de samples. Et après, ce qui est super intéressant, bon, qui est un peu plus violent pour les oreilles, c'est le circuit bending.
Ouais, alors, tu nous as amené un petit morceau, là, juste pour illustrer, on peut en mettre 30 secondes.
Pour introduire, alors c'est l'orchestre de Pikachu.
Oula.
Ouais.
Alors attendez,
c'était quoi,
j'ai Anamaguchi.
Non.
Brett Domino.
Non.
C2C.
Non.
Ça doit être Y.M.
Tristan Périchon. Y.M.O.
Ouais. Y.M.O. Ça doit être ça, ouais.
Alors, attention, c'est parti. Ça s'écoute en concert, quoi. Surtout.
C'est très dense.
Non, c'est... Enfin... En fait, le principe, donc là, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est un ensemble de jouets Pikachu électroniques.
D'accord. Et vous pouvez voir la vidéo sur canalsud.tk.
Voilà, sur le pad.
Un concert, en fait, de jouets Pikachu.
En fait, le principe du circuit bending, donc circuit bending, c'est pliage de circuit. Le principe, c'est de court-circuiter de l'électronique pour créer des sons.
D'accord.
Donc ceux qui font du circuit bending, ils utilisent beaucoup de jouets, en fait, de jouets pour enfants notamment. Et du coup, là par exemple, ce sont des Pikachu électroniques qui sont mis ensemble et qui sont modifiés avec l'aide de potentiomètres, modulateurs, pour faire de la musique, entre guillemets, quoi.
D'accord.
Voilà. Et donc ils utilisent aussi des Furby, un peu tout... Et donc, tout à l'heure, on parlait d'une autre manière de hacker la Game Boy pour faire du son. Et donc, je pense qu'on peut faire comme ça aussi en court-circuitant.
Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies lancé un jeu ou un truc comme ça. On m'entend ? Ouais, on m'entend.
Ouais, faudra qu'on regarde. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant dans cette pratique aussi, c'est que c'est né dans les années 60. C'est né un petit peu avec les déchets électroniques. Donc, c'est du...
D'accord.
C'est ce qui m'intéresse toujours, c'est le côté récupération, do it yourself, et on sort un petit peu de la musique traditionnelle aseptisée, quoi. Après, effectivement, là, c'est toujours un petit peu violent.
Ouais, c'est un peu dur de sortir de la bonne musique, hein, avec du 8 bits.
C'est ça, ouais, c'est assez difficile. de trouver des choses vraiment intéressantes. Mais il y a et un petit peu quand même, il y a différents genres. En 8 bits, par exemple, en groupe français, il y a Cap Bambino qui fait du garage rock, un peu. Il y a We Are Enfants Terribles qui est un petit peu plus rock électro. Donc on trouve quand même des groupes. Il y a un groupe aussi connu canadien qui est Crystal Castles.
Oui.
Voilà, ça c'est déjà beaucoup plus connu. Et il y a quand même des choses intéressantes. Après, le circuit de bending, c'est beaucoup plus spécifique et beaucoup moins audible, on va dire.
Il y a aussi le Coco Rosie qui a inauguré un petit peu, enfin c'était il y a quand même quelques années, qui servait de jouet pour faire ses sons.
D'accord, ouais, mais enfin ça a été pas mal repris, il y avait une bonne liste d'artistes.
Et aussi je pensais à un label français qui s'appelle Dire Dit Record, qui fait de la musique 8 bits, c'est derrière.
Non.
Avec Bene Bene ou Puyo Puyo, Computer Truck.
Ah si, Computer Truck, ouais.
C'est des... voilà. Bon, en fait, j'ai l'impression que ça motive plein de gens et que c'est ouais, le côté créer un peu ses propres instrus et tout. C'est
ça, en fait, ouais, qui est intéressant. C'est le fait de créer ses instruments pour créer ses sons. Et le fait, en plus, que ce soit de la récupération, c'est encore plus intéressant. Après, il y a d'autres en un peu plus poussé, vu qu'on parle de créer ses instruments. C'est pas du 8 bits, mais il y a Ezekiel qui a créé des instruments... complètement fou, une cage qui fait de la musique quand on la touche, ou une machine à coudre qui fait de la musique quand on l'actionne, ou... voilà, dans le côté détournement d'instruments d'objets.
Ouais, ça fait vachement aussi appel à la nostalgie quand même, tous ces trucs 8 bits,
ouais.
Notre génération, 80, on a tous joué à la NES, on serait tous chanter, siffler la musique de Mario Bros. Ça fait vachement appel à la nostalgie, à des souvenirs, quoi.
Un peu rétro gaming et tout ça, ouais. Et voilà. Non, j'avais mis un son chiptune pour mettre la différence un peu entre le...
Et tu aussi, tu t'as oublié, là, je l'ai récupéré triste. Tristan
ah
Péric.
Oui, pardon.
T'as oublié d'en parler.
Bah alors peut-être qu'on va mettre la musique chiptune avant. Chiptune, donc c'est de la musique 8 bits mais en temps réel.
D'accord.
Et il s'appelle comment le morceau ?
Il s'appelle c'est Anamaguchi Power Supply.
Ça marche, on s'écoute ça tout de suite. Vachement dans l'univers des jeux vidéo, hein, quand
ouais,
même.
Ouais.
Ce souffle un peu épique, des quêtes secondaires. Ouais, je sais pas.
Mais j'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs. Ouais, donc c'est.
On dirait un peu une sonnerie d'évacuation là, quand il y a un incendie, quand même.
C'est pas faux, ouais.
Voilà, donc ça c'était un groupe de rock, indie rock chiptune. Voilà. Et alors après, on va aller encore beaucoup plus loin dans le bruit. Donc là, c'est plus vraiment de la musique, mais. C'est une symphonie en 1 bit. Donc c'est un artiste qui s'appelle Tristan Péric qui a réalisé un outil, vu que c'est sous la forme d'un outil. C'est en fait un boîtier de CD avec le minimum électronique pour faire de la musique en 1 bit. Donc on peut le bidouiller, mais il y a déjà aussi de la musique qui est incorporée. Et donc c'est tout avec un seul bit. Donc,
yes. Ouais, je regardais son truc. Ouais, il y a une pile, un interrupteur,
ouais.
Une petite puce,
un jack.
Un jack et un bouton pour repasser les pistes.
C'est ça.
Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Et,
c'est du minimalisme.
Mmh. Ouais, bon après.
Poussé à l'extrême.
C'est pas génial.
En termes de musique, c'est.
Non, mais ça dure que 6 minutes.
Non, je le mets pas en entier.
Mais en 30 secondes.
Allez, c'est parti. Bon, voilà. C'est bien.
C'est le minimalisme extrême, ah ouais, de la musique en beat. Voilà.
Ouais, c'est plus une performance. Que...
Performance.
Voilà. Oui, oui, ça s'accompagne de l'image peut-être.
Non, même
non,
pas.
Même pas. Ouais.
Non, non, c'est le. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Florent. C'est le concept. Le concept est super intéressant. Mmh. Cette idée d'aller dans la simplification extrême, partir d'un élément très simple et d'en faire quelque chose de plus compliqué.
D'accord. Oui.
Maintenant, c'est vrai que c'est pas. C'est un peu violent comme musique.
Et ben moi, du coup, je vous ferais bien écouter une chanson de Bene Bene, qui est un morceau qui est pas mal. Je sais pas si on est dans le circuit de bending, le beat ou quoi, mais au moins l'intro qui est sympa, quoi.
Ouais, d'accord.
Ça fera du bien aux oreilles.
Pas sûr. Donc ouais,
c'est
bon,
c'est pas mal.
Il y a plein de trucs.
Ouais.
Ouais, ouais, avec la voix un peu pop comme ça, c'est vrai que c'est un peu plus écoutable.
Ouais.
Enfin, c'est un peu plus club aussi, quoi. Mais je trouvais que l'intro était bien foutu.
Ouais, en 8 bits, ouais.
En 8 bits, du coup, ouais.
Je crois que c'est tout pour le bruit aujourd'hui.
Après les toasters.
C'est ça.
Donc, est-ce qu'on fait une coupure ou pas? Oui, parce que on a de quoi parler, l'agenda.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Donc, la dernière fois, on avait parlé des badass de l'espace. Alors, on avait trouvé, c'était quoi, Neil Armstrong et Yuri Gagarin. Donc, on avait l'idée de continuer dans cette optique et de prendre, en fait, faire des portraits de hackers. Donc moi j'étais parti sur parler de Kevin Mitnick qui est en gros le plus gros hacker, ou du moins le plus connu, le plus gros des hackers, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé trop d'infos sur sa bio, et je voulais payer son bouquin, sa biographie, mais j'ai pas eu le temps, et j'ai, la seule chose que j'ai vu c'est Cybertrack, un film sur sa vie qui est sorti en 2001 et qui à mon avis n'est pas très représentatif de sa vie, donc ça sera pour une prochaine fois. Mais je suis tombé sur un autre hacker, et là c'est vraiment, j'ai trouvé qu'il était, c'était une belle histoire. C'est, je vous racontais l'histoire de William Kamkwamba. Alors je le dirai qu'une seule fois, William Kamkwamba, on va l'appeler William maintenant.
C'est son vrai nom.
Oui, c'est un. Alors William Kamkwamba, William maintenant on va dire, c'est un Malawi, Malawicien, enfin un habitant du Malawi, qui est né en 87. Donc le Malawi, c'est à côté du Mozambique. C'est un pays, ils n'atteignent pas la mer. Et c'est à peu près, pour ceux qui sont nuls en géographie, c'est à peu près en face de Madagascar. Donc c'est un pays vraiment pauvre, quoi, où il y a beaucoup de famine. Et donc William, à l'âge de 14 ans, ses parents sont obligés de le sortir de l'école parce qu'il y a une grosse famine et ils ne peuvent pas assurer les $80 que coûte sa scolarité par an. Donc il le sort de l'école. William, lui, c'est un gamin vachement curieux. Donc au lieu de s'ennuyer ou faire je ne sais quoi, il va à la librairie de son école. Et là, il tombe sur un livre qui est « Comment produire de l'énergie » et qui est destiné aux 13-14 ans. Et dans ce livre, il voit une éolienne. Et il y a juste la photo de l'éolienne. Il y a aucune explication sur comment fonctionne une éolienne. Et il se dit, bah écoute, moi je vais faire pareil. J'ai envie d'avoir du courant chez moi parce que, bon, au Malawi, apparemment, il n'y a que 3% de la population qui a le courant. Donc, son village, il n'y a pas le courant. Et donc, en fait, sans connaissance en physique, en chimie, en mécanique, ni sachant comment on construit une éolienne, parce que bien sûr, il n'y a pas Internet, tout ça, il a juste la photo de l'éolienne, et bien, il commence à prendre un petit moteur et à faire des essais avec des pales. Et il regarde, il voit que ça ne marche pas. Pardon. Il récupère le ventilateur d'un tracteur qui traînait. Il commence à construire une tour de 5 mètres de haut parce qu'il s'aperçoit que en fait, plus on fait une tour haute, plus le vent est fort. Parce qu'en fait, j'ai appris ça. Le vent, en fait, il est rugueux. Quand il va toucher le sol, plus il est bas le vent, plus en fait, il est ralenti par le sol.
Il accroche.
Voilà, il accroche. Donc, dès qu'on monte à 5-10 mètres, le vent est déjà beaucoup plus violent. Et il commence à faire des tests. Il prend des tuyaux en PVC, il les découpe et il les chauffe et il en fait des pales. Pour les aplatir. Alors il fait un premier prototype où son éolienne, elle a que 3 pales comme sur la photo du bouquin, mais il se rend compte qu'en rajoutant une autre pale, une quatrième pale, il arrive à aller à faire son éolienne qu'elle aille plus vite. Et là il commence à y monter, comment s'appelle ce qu'on a sur les vélos, une dynamo directement dessus, mais ça, le problème c'est que ça tourne pas assez vite. Et donc là, il récupère un vélo, et avec la démultiplication du vélo, il arrive à faire tourner son éolienne assez vite. Et il arrive à faire fonctionner une ampoule pour s'éclairer lui-même le soir. Et donc, en fait, dans son village, ils prenaient tous pour un gros taré. Au début, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Il découpe des morceaux, il fait une tour et tout. Et là, tout le monde commence à le prendre au sérieux. Donc là, on commence à lui donner un coup de main. Et là, déjà, il arrive à dégoter une batterie de voiture. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir charger cette batterie et garder de l'électricité pour quand il n'y a pas de vent. Et là, il arrive à allumer 4 ampoules pour sa famille, plus un poste de radio. Donc là... il continue sur sa lancée et il va faire comment ça s'appelle, une éolienne qui va permettre de récupérer de l'eau depuis un puits et d'irriguer les champs de son village. Et c'est là qu'un professeur qui travaillait à la capitale à côté, je n'ai pas le nom de la capitale, apprend ça. Il fait venir des journaux du Malawi qui font un article sur lui. Et là, après, tout s'enchaîne. Il y a, comment ça s'appelle, j'ai pas son nom, mais les conférences TED. C'est une organisation, en fait, qui organise des conférences et leur but, c'est de partager les idées.
Sur l'innovation, non ?
Ouais, sur l'innovation, sur tout un tas de sujets. Leurs conférences sont vachement bien faites et on peut apprendre plein de choses. Ils sont très, très connus, quoi. Il suffit de taper TED, TED sur Google. On trouve. Et donc, une des personnes apprend l'existence de William et le fait venir aux USA. Donc là, il fait une conférence. Bon, et tous les gens sont là, sur le cul. Le gars, il a aucune connaissance, il arrive à faire ça. Donc un super exemple quoi. Et donc là, grâce à ça, il a pu avoir dégoté une bourse pour reprendre ses études. Donc il a repris ses études, après il est parti en Afrique du Sud pour les continuer. Et là maintenant, il arrivait à avoir une bourse pour faire une université aux États-Unis. Donc là, il a, je crois qu'il a 20 ou 24 ans, enfin bref. Il a, donc là, il continue des études pour faire de l'ingénierie. Et son but, c'est d'ouvrir une société d'éoliennes au Malawi. Et entre-temps, donc, il a fabriqué, il a aidé à fabriquer plein d'éoliennes au Malawi pour des écoles. Il a fait reconstruire des écoles, des bibliothèques, tout ça. Il a participé aussi au programme OLPC dont on parlait avant. Et donc, enfin, pour moi, quand j'ai lu cette histoire, je trouvais que c'est vraiment émouvant. Et pour moi, c'est vraiment le hacker, quoi. Il n'a aucune connaissance, juste la curiosité. Et en essayant, il arrivait à son but, quoi. Donc, Ouais, vas-y.
Ouais, pardon. C'est un peu maker aussi, le fait de bidouiller, de...
Ouais, c'est pour moi, il demande deux choses. C'est qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur pour faire n'importe quoi. On n'a pas besoin d'être électronicien pour faire de l'électronique. Il suffit d'être intéressé un temps soit peu. Il y a des bouquins, il y a des gens pour s'aider. Et alors qu'en France, on contente trop les gens hein, sur s'ils sont ingénieurs, on dit « Ah non, je suis pas ingénieur, je n'y arriverai jamais. » Alors que non, pas du tout. Et deuxième truc, il montre que l'éolien, c'est quand même vachement simple. Et là, ça rejoint tout ce qu'on peut faire actuellement. Je me suis un peu intéressé dernièrement à tout ce qui était l'éolienne. Et on peut dès maintenant se passer du nucléaire. Il y a ce qu'on appelle les éoliennes pigottes. Alors pigottes, c'est un Écossais qui vivait sur une île et qui n'avait pas de courant. Et au fur et à mesure, il a mis au point une éolienne qui produit de l'électricité, forcément, et qui est très facile à construire et qui coûte pas cher et à maintenir. Et en France, il y a des associations comme une association qui s'appelle Tripalium, qui est à côté de Villefranche-de-Lauragais, à l'Illégal, qui propose des stages pour construire son éolienne chez soi. Enfin, pour à peu près, je n'ai pas les coûts, mais pour 1000 euros, batterie et tout ça, on peut produire pour une famille au moins la moitié de son énergie. Donc, si tout le monde avait une éolienne rudimentaire, une éolienne, c'est quoi? C'est juste un alternateur qui tourne.
Il faut compter entre 5 et 8 000 euros. Ouais.
Après, ça dépend si on se la fait ou pas, quoi. Oui, mais après, on peut l'acheter, mais... autant se la faire soi-même, parce qu'elle sera rustique et
tu sauras comment la réparer.
Comment la réparer? Ben en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on fabrique carrément le générateur en faisant les bobinages. C'est d'une simplicité, c'est dingue, quoi, tellement c'est simple. Et si l'État a poussé sur ce genre de projet, ou même d'acheter un constructeur d'éoliennes, je sais pas, on pourrait tout le monde en avoir sur les toits des maisons. Il y a des éoliennes qui sont faites pour avoir du vent perturbé. Quand le vent il passe en ville, il est perturbé, il n'est pas régulier, il n'est pas très fort. On pourrait en avoir sur les toits des immeubles et on pourrait dire au revoir au nucléaire, c'est clair. On pourrait réduire sa consommation, même si après il y a un problème de stockage, on peut réinjecter directement dans le réseau EDF. Donc il y a. Enfin bref. Mmh. Voilà, donc ce William là, il est plein d'enseignements pour moi. Quoi.
Une belle histoire.
Ouais, une très belle histoire. Agenda.
Donc en parlant de l'illégal tout à l'heure, il y a Lilian cette semaine qui a proposé justement un stage de construction d'éoliennes en mai prochain pendant une semaine, juste avant le THSF, le festival qu'organise Theta Lab. Donc ce sera la semaine du 16 au 20 et quelques mai, je crois.
Ouais.
Donc se retrouver avec des hackers, des autoconstructeurs chez lui. Donc il a une grande zone de construction autour d'une ferme sur le bord du canal du Midi pour pouvoir construire des éoliennes.
Un stage qui est payant, il me semble.
Probablement. Oui. Ouais, j'ai pas lu le mail en entier, mais il y avait beaucoup d'informations.
Ouais, mais il y a le matos.
C'est pas gratuit. Voilà.
Ouais.
Mais...
Oui, non, c'est pas gratuit.
Autre agenda, il y a l'apéro Code Lab le 24 et 25 novembre de ce mois-ci. Ça se passe à Mixart Miris. CodeLab, c'est un forum sur Internet qui propose d'échanger autour de pratiques numériques essentiellement artistiques. C'est une plateforme où se croisent codeurs insomniaques, bidouilleurs de tout poil, plasticiens branchés, cybermusiciens, vidéastes, dompteurs de pixels, créateurs et techniciens du spectacle vivant, étudiants en art et à la veille d'un examen. L'Apéro CodeLab, c'est l'occasion à cette communauté qui se retrouve sur le forum Internet de se rencontrer, de mettre un visage sur leur pseudo et de partager les pratiques lors de conférences, d'ateliers, de performances. Donc vous pourrez retrouver ce forum sur codelab.fr. Et il y a un appel à création pendant ce week-end du 24-25 mai à Mixart Myris, donc vous pouvez aller voir. Il y a donc ce sera des ateliers principalement dans la journée, donc ça peut être assez lié au circuit bending. Si vous avez des questions par rapport au circuit bending, il y aura sûrement des gens là-bas avec déjà des installations de création musicale avec des objets électroniques détournés.
Ok, sinon Coralie, elle a promis que la prochaine fois elle nous ferait une démo. T'es obligée maintenant.
Mais c'est pas mal pour processing aussi, CodeLab, non ?
Ouais. Donc c'est tout ce qui est approche assez basique à la programmation dans le but de faire quelque chose un peu artistique. On ne prend pas trop la tête avec savoir si c'est des licences libres ou pas. On essaie juste de trouver les outils qui permettent de faire quelque chose de son ordinateur pour sortir de l'image ou du son. Ouais. Le même week-end, il y a le Capitole du Libre à l'N7. Ah ouais. Donc c'est deux jours de conférences autour du libre avec l'Ubuntu Party. Il y a des conférences toute la journée. Il y a Jérémy Zimmerman, je crois, le samedi soir. Il y a
des conférences sur l'open hardware aussi.
Sur l'open hardware, ouais, l'open source. Il y a des ateliers aussi, je crois.
Sur les logiciels 3D libres.
Ouais.
Aussi.
Des trucs un peu techniques sur Git, sur Django. Je crois Django, il y a une partie de Django, ouais, ou Drupal, je sais plus. Enfin bon, voilà, il y a tout le week-end est occupé. Ce qui va venir assez vite aussi, c'est du 27 au 31 décembre, c'est le 29C3, Chaos Computer Congress, qui aura lieu à Hambourg cette année. On en reparlera pour l'émission du mois prochain. Il y en aura sûrement le programme et on pourra détailler quelques points qui vont être abordés pendant cette conférence. Donc c'est une conférence qui a lieu pour la 29e fois cette année, pour ça le 29C3. Et où plusieurs milliers de hackers se retrouvent pour parler de leur dernier projet, de leur dernière découverte par rapport à la sécurité ou à la au bidouille hardware qu'ils ont découvert dans l'année.
Ok. On a fini ? On a terminé ?
On est bon.
Alors on patiente 5 minutes.
Continue, on peut parler des crypto.
Aussi ce soir on se retrouve.
Ah oui, on se retrouve au Theta Lab. Donc le Theta Lab, c'est un hackerspace à Toulouse et on se retrouve tous les mercredis soirs à partir de 21h à Mixart Myris. C'est 12 rue Ferdinand Lassalle. Vous pouvez venir discuter, retrouver, vous pouvez venir poser des questions sur ce que vous avez découvert aujourd'hui ou nous montrer vos projets.
Mais justement, il y a un auditeur en fait qui appelait et qui s'étonnait que tu employais le terme hacker pour William. Peut-être que tu pourrais éclairer ça.
En fait, en France, on fait souvent, on distingue pas hacker et pirate. Un hacker, l'étymologie, en fait, ça veut dire bidouilleur. C'est quelqu'un qui va être intéressé par les choses, qui va
la modifier,
détourner des choses. Et voilà.
Et pas
donc
que dans l'informatique. Quoi.
Voilà. Au début, les hackers, il y en avait beaucoup, c'était des informaticiens qui se demandaient comment marchaient les programmes et arrivaient à les détourner. Et de là, sont nés ce qu'on appelle les black hats et les white hats. Les black hats, c'est les vilains hackers qui cassent les sites et qui se font de l'argent. Et les white hats, c'est les chevaliers blancs qui, quand ils trouvent une faille, ils vont le dire. Et voilà.
Ils se font un peu de soucieux.
Donc voilà, donc on a, en France, quand on parle des hackers,
C'est aux États-Unis, en fait, on dit plus makers pour les gens qui bidouillent. Mais le hack, à la base, c'est, en français, c'est détournement. Donc quand on parle de hack, c'est juste hacker, c'est s'approprier les choses, les bidouiller.
Ouais, donc il a...
C'est pas forcément de l'informatique, du coup.
Oui. Mmh. William, il a hacké un ventilateur de tracteur, dynamo,
c'est ça.
Tout ça.
D'accord. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. On se dit à dans un mois.
Eh bien, dans un mois.
À dans un mois.
Ça marche. Allez, on part en musique. C'est la fin de ce magazine. Tout de suite, on s'écoute les Pixies. Heaven. La suite des programmes sur Canal Sud, c'est à 19h, à 18h, pardon, les petits papiers. À 19h, la bulle coincée sur la bande dessinée, c'est suivi par Crio Cuervos et enfin Voyelle qui fera une émission en direct ce soir sur l'autodéfense féminine. Passez une bonne après-midi sur Canal Sud.